Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Une émission aujourd'hui consacrée à un rapport qui a attiré notre attention et qui est un rapport de l'Institut Montaigne qui s'intitule « L'avenir se joue dans les quartiers pauvres ». Ce rapport de l'Institut Montaigne s'intéresse aux 1514 quartiers prioritaires de la ville qui recouvrent un peu plus de 5,5 millions d'habitants. Et c'est à travers cette étude que le rapport met en évidence un certain nombre de réalités qui sont assez peu visibles dans le débat public. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir la première adjointe au maire de Saint-Denis, Cathy Bontinck. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc première adjointe à la santé, au logement, à la lutte contre l'habitat indigne et à la rénovation urbaine, et également vice-présidente de Pleine Commune. Alors, avant de vous poser ma première question, je voudrais quand même vous donner deux ou trois éléments qui sont vraiment très percutants dans ce rapport, qui rappelle que 40% des quartiers politiques de la ville ne disposent pas d'une crèche, qui rappelle également que 34% des enseignants y ont moins de 35 ans, qui rappelle également que le taux de chômage y est environ trois fois plus important que dans le reste du pays. Il y a moins de médecins, moins d'équipements sportifs, moins d'équipements culturels. Et pourtant, Cathy Bontinck, quand on parle de ces quartiers, on a l'impression qu'on y déverse des milliards, que c'est des quartiers presque, je dirais, privilégiés en termes de services publics et d'argent public. Or, le rapport, eh bien, démontre que c'est totalement l'inverse.
Oui, ben effectivement, et tant mieux, ce rapport arrive vraiment à point nommé, parce qu'il y avait besoin de continuer à déconstruire ce que nous, les élus locaux de ces quartiers populaires, on dit depuis des années, c'est que il faut continuer à investir dans ces politiques publiques et continuer le rattrapage, puisque les chiffres sont là. Et c'est pas parce que il y a beaucoup de plans qui sont consacrés et d'argent qui est mis sur ces politiques publiques qu'on a l'égalité territoriale qui est nécessaire, et donc il faut absolument continuer ce rattrapage.
Alors je crois que dans votre ville de Saint-Denis, on a environ 80% de la population qui habite dans ces quartiers dits politiques de la ville.
Oui, c'est ça. Saint-Denis, c'est 115 000 habitants. Et effectivement, on a 6 quartiers. L'ensemble de la ville est classé en quartier politique de la ville. Et donc, ça représente à peu près 80% de la population. Et c'est un constat similaire sur les autres villes du territoire de Pleine Commune, qui a à peu près ce taux. Hein, je crois que c'est 76% sur Pleine Commune du territoire qui est en quartier politique de la ville. Donc, c'est vraiment notre quotidien d'être sur ces politiques publiques de la rénovation urbaine, de l'éducation, de la culture, de la santé, du cadre de vie, puisque les défis sont encore très importants.
Alors, un des points sur lequel le rapport veut attirer l'attention des décideurs publics ou privés, c'est bien la nécessité, après un travail sur la rénovation urbaine, l'Agence nationale de la rénovation urbaine existe depuis 2003, de faire un ANRU des habitants. Autrement dit, ce que souhaite exprimer le rapport et les auteurs de ce rapport, je rappelle, c'est Hakim El Karaoui et Olivier Klein qui ont piloté ce travail. Ils souhaitent finalement passer à une autre étape en disant on a mis beaucoup d'argent et on a obtenu certains résultats dans la rénovation des quartiers, de l'habitat, mais aujourd'hui c'est pas suffisant. Il faut s'attaquer à la racine, aux questions éducatives, de santé, à l'accès à la culture, au sport. Est-ce que c'est le constat que vous faites, puisque vous êtes à Saint-Denis, finalement, actrice de cette rénovation urbaine en tant qu'adjointe au maire?
Oui, je pense que ça fait partie d'une bonne proposition, et elle vient de notamment d'Olivier Klein qui est président de l'ANRU, donc qui a ce recul sur en quoi ce mode de pilotage des projets de rénovation urbaine peut être finalement prolongé sur la question de la fameuse concertation habitant, de la démocratie locale qui nous percute toutes et tous, les élus locaux. Hein. Bien évidemment, on veut en faire, on veut en renforcer renforcer cette dimension pour mieux associer les habitants. Et puis souvent, on est un petit peu finalement perdu sur comment pouvoir le faire et sur quelle thématique vraiment il y a un chemin pour davantage associer les habitants. Et les thématiques qui sont posées ici sont bien celles qui sont au cœur des préoccupations. Je crois que l'ANRU effectivement s'est beaucoup occupé de la question de la rénovation des logements et un petit peu aussi des espaces publics, du cadre de vie. Nous-mêmes dans les projets ANRU à Saint-Denis comme à Pleine Commune avec Mathieu Hanotin, on a beaucoup porté cette question des espaces publics hein, qui étaient souvent un peu les parents pauvres des financements de l'ANRU qui priorisaient le logement avec souvent beaucoup de démolitions et donc des projets qui étaient aussi compliqué en termes d'acceptabilité par les habitants. Donc là, il y a une nouvelle ère un peu qui s'ouvre avec cette proposition. Donc moi, je l'accueille plutôt avec bienveillance. Après, quand on regarde le détail des 31 propositions, je crois que là, il y a parfois un petit peu des portes déjà ouvertes qui sont enfoncées et on a besoin que ça soit beaucoup plus concret et notamment sur cette association des habitants, on attend de l'État qu'il clarifie le cadre des conseils citoyens qui avaient été justement créés dans le cadre de la mise en place des quartiers politiques de la ville et on n'a à ce stade aucune visibilité sur le devenir de ces instances qui sont des instances officielles posées par la loi et donc il faudra absolument que très rapidement la question de la politique de la ville et d'un fameux peut-être plan quartier 2030 tel que le candidat Macron désormais réélu président avait annoncé, il faut que maintenant ça puisse être très concret parce que nous on est en attente de pouvoir avancer et là c'est vraiment un flou, on est au milieu du guet sur ces instances de démocratie locale donc on innove, on essaie d'inventer aussi des dispositifs, mais l'État étant partie prenante très importante de ces financements politiques de la ville, il faut aussi qu'on ait un retour du côté du gouvernement sur la direction à prendre sur cette ANRU des habitants, si c'est ce qui est retenu.
Oui, on se rappelle qu'il y avait eu un rapport commandé à Jean-Louis Borloo qui n'avait pas vraiment abouti sur les clarifications que vous appelez de vos voeux. Et il y avait eu beaucoup de propositions qui avaient été émises et finalement assez peu ont été retenues. Donc on verra effectivement si ces 31 propositions du rapport de l'Institut Montaigne aboutissent et se concrétisent. Mais si on devait reprendre un petit peu les éléments du rapport, il y a une grande attention et une série de propositions en ce qui concerne en particulier l'éducation. Il y a deux types de propositions. Il y a des propositions qui relèvent de l'ordre de la pédagogie avec des pistes d'expérimentation sur le modèle de ce qui s'est fait aux États-Unis dans la Perry Preschool. Une expérimentation qui est assez ancienne, mais qui semble-t-il avait donné des résultats sur les enfants en très bas âge, et puis également des solutions pour fidéliser les enseignants les plus expérimentés, parce qu'on l'a vu dans l'indicateur tout à l'heure, souvent dans ces quartiers politiques de la ville, bien sont nommés de jeunes enseignants et qui sont du coup peut-être plus en difficulté que des collègues plus chevronnés et qui connaissent mieux les territoires et les enjeux dans ces quartiers.
Bah, là-dessus, enfin moi et par ailleurs, au-delà d'être élue, je suis professeur des écoles, enseignante à Saint-Denis, donc particulièrement aussi engagée sur ces questions de pédagogie. Je crois que expérimenter des nouvelles pédagogies à l'école maternelle. Il y a toujours des choses et les enseignants sont souvent eux-mêmes acteurs d'essayer des pédagogies alternatives pour s'adapter à leurs élèves. C'est quand même le cœur du métier d'enseignant. Donc on sort aussi d'une période politique avec un ministre de l'Éducation nationale qui avait quand même apporté sur les neurosciences, sur un certain nombre de choses, des pédagogies qui pouvaient être parfois un petit peu contestées. Là, je crois qu'on a vraiment besoin d'apaiser le cadre de l'enseignement et puis surtout de donner les moyens à l'école de fonctionner. Donc je crois davantage à la deuxième partie des propositions sur cette question des enseignants, de leur fidélisation et du fait qu'ils soient expérimentés, plutôt de se dire que parce qu'on avait des écoles dans des quartiers pauvres avec parfois des familles qui ont moins la possibilité de stimuler les enfants, que on allait faire un petit peu des programmes d'entraînement qui allaient révolutionner tout ça. Moi je ne crois pas à ces approches-là, mais au contraire donner le moyen aux équipes pédagogiques, notamment sur la question du matériel, hein. Et là on rejoint les financements qui sont ceux des communes qui ont en charge le fait de financer les écoles primaires dans le bâtiment et dans le matériel. On aurait vraiment besoin d'un soutien pour soutenir notamment toutes ces pédagogies alternatives qui existent déjà et soutenir les sorties scolaires pour davantage stimuler les enfants. Je rappelle que nous aussi, par exemple, on a tout le réseau des PMI de Seine-Saint-Denis qui font des bilans très importants à l'âge de 4 ans pour le repérage de troubles du langage ou de troubles qui sont appelés les troubles 10. Et là aussi, on a besoin d'une réponse qui soit celle de professionnels en nombre sur le territoire. On sait que la question, on en parlera peut-être, de la santé est très importante, mais les orthophonistes, on en parle très très peu souvent dans les déserts médicaux. On a des familles qui sont complètement en déshérence pour la prise en charge de leurs enfants, qui sont tout à fait conscientes de troubles qu'il faudrait prendre en charge précocement et qui sont complètement dépourvues en termes de structure pour les accompagner. Donc c'est pas un programme de stimulation cognitive qui va changer la donne là-dessus, c'est au contraire, on connaît ce qu'il faut pour accompagner ces difficultés d'apprentissage, et il faut qu'il y ait sur les territoires à la fois l'équipe enseignante, mais aussi autour la fameuse question des rasettes qui ont été abandonnées depuis des années, les orthophonistes, les psychologues scolaires, c'est cet environnement-là qui est nécessaire. Donc je crois qu'on a les solutions là-dessus, et je ne crois pas beaucoup à ce programme. Sur la question de l'attractivité des enseignants, c'est là aussi l'équilibre territorial qui est nécessaire. Nous, en tout cas, sur la partie est parisien ou nord parisien de la question des banlieues, on appelle vraiment à un rééquilibrage francilien sur la question du logement social, sur la question de cette surspécialisation qui avait beaucoup pesé sur nos territoires, parce que globalement les enseignants, même si ils vont être mieux payés en venant en éducation prioritaire renforcée, eh bien quand il y a une grosse difficulté à exercer son métier parce que trop de familles vont être en difficulté et leur impose de gérer bien d'autres choses que leur cœur de métier, ben c'est ça qui épuise le corps enseignant. Donc la question de la mixité sociale à l'école, elle est fondamentale, et on rejoint là
les questions d'urbanisme et de logement.
Les questions d'urbanisme et de logement, il faut vraiment complètement s'attaquer, et je trouve que par ailleurs c'est peu présent dans ces 31 propositions de ce rapport, où on n'a pas du tout la dimension de rééquilibrage territorial. Et en Ile-de-France, c'est la question majeure. En tout cas, nous, élus locaux, Saint-Denis et pleine commune, on le porte très fort.
Alors justement, c'était la question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui manque dans ce rapport, et en particulier dans votre domaine de compétences de l'habitat et du logement. Vous avez en partie répondu, mais je vais quand même vous faire réagir, ce sera ma dernière question. Il y a une proposition qui est d'instaurer un plafond de logements sociaux dans chaque commune à 40%. À Saint-Denis, vous êtes bien au-delà des 40%. Comment vous abordez-vous cette question de la mixité sociale en lien justement avec les questions posées par le rapport?
Oui, en effet, à Saint-Denis, on est à 52% de taux SRU de logements sociaux, qui comprend aussi le logement spécifique, l'hébergement d'urgence, et donc plafonner, ça fait partie de ce rééquilibrage qui est nécessaire. Et après, on a cette crise du logement en Île-de-France qui est encore devant nous. Et donc, comment, au-delà de plafonner les territoires qui ont beaucoup de logements sociaux, comment les autres territoires qui sont déficitaires, on passe à une nouvelle échelle de contraintes pour les obliger déjà à aller sur leurs obligations SRU à 25%. Comment on peut encore accepter maintenant que des villes préfèrent financer les amendes au non-respect que de prendre leur part de solidarité. Donc c'est ça vraiment qu'il faut travailler. Et puis je tiens à rappeler, parce que souvent on parle du logement social dans la globalité, il y a trois catégories de logements sociaux, les très sociaux, les sociaux...
Le PLAI, très social, le PLUS et le PLS, complètement. Qui est plus intermédiaire.
Et ça, quand on ne regarde pas dans la finesse cette catégorie, si finalement les territoires plus favorisés, ils vont accepter en les suppliant de prendre un peu plus part à la solidarité, mais qu'ils vont vouloir aller sur le logement intermédiaire, etc., eh bien finalement la grande précarité restera toujours concentrée
alors qu'il faut le dire, les besoins les plus importants, c'est en logements très sociaux.
C'est en logement très sociaux, et notamment dans le cadre de l'ANRU, quand on doit reloger des personnes parce que leur logement va être démoli dans le cadre d'un projet, on en a plein qui sont intéressés pour avoir des parcours résidentiels en dehors de la Seine-Saint-Denis. Les gens évoluent par rapport à ça. Souvent on dit, mais les personnes veulent rester dans leur quartier, il faut reconstruire dans leur quartier, mais pas du tout systématiquement, au contraire. Simplement, on leur ouvre pas les possibles du fait de dire l'Ouest parisien, tel quartier, avec aussi, on le sait, la CAF qui fonctionnera mieux, les services d'accompagnement qui aussi seront moins saturés. C'est tout ça qu'on a besoin de faire. Donc vraiment, baisser le taux de logements sociaux, mais surtout comment contraindre les territoires qui n'en font pas ou qui choisissent leur catégorie de logement social, comment les contraindre. C'est ça la proposition très concrète qu'on a besoin d'avoir. Et c'est le même débat sur la question de l'hébergement d'urgence, de ces logements intermédiaires qui permettent vraiment là de sortir les personnes de la rue ou d'un logement indigne. Je rappelle qu'à Saint-Denis, nous avons une énorme problématique d'habitat insalubre. Ouais. Et bien là encore, la concentration des places d'hébergement d'urgence, elle est majoritairement en Seine-Saint-Denis et surtout sur le nord de la Seine-Saint-Denis, ici à Saint-Denis et pleine commune. Donc le rééquilibrage régional, c'est pour nous la pierre angulaire de cette orientation pour une politique de la ville rénovée. Et c'est un peu en deçà de nos attentes dans ces 31 propositions.
Eh bien, on posera la question, cette question à Hakim El Karaoui dans la deuxième partie de l'émission. Je vous remercie, Cathy Bontinck, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes première adjointe de la ville de Saint-Denis, en charge notamment de la santé, du logement, de l'habitat indigne, de la rénovation urbaine, vice-présidente de pleine commune. Et on est ravis d'avoir eu votre réaction sur ce rapport de l'Institut Montaigne, dont on espère effectivement qu'il permettra de poursuivre le débat et peut-être de déboucher sur de nouvelles propositions. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps ? De l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», une émission consacrée aujourd'hui à un rapport qui a attiré notre attention. « Les quartiers pauvres ont un avenir », c'est l'Institut Montaigne qui a publié il y a quelques jours ce rapport, avec les deux co-rapporteurs, Olivier Klein, qui est président de l'ANRU, maire de Clichy-sous-Bois, et Hakim El Karaoui, qui est entrepreneur, essayiste et donc co-auteur du rapport et qui a accepté notre invitation. Bonjour Hakim.
Bonjour.
Alors, avant de vous donner la parole, je rappelle que ce rapport donc concerne les 1514 quartiers dits prioritaires de la politique de la ville où on a une population, c'est 8% de la population française, un peu plus de 5,5 millions d'habitants. Et on va dire que le je pense que le premier intérêt de votre rapport, c'est à travers un certain nombre de chiffres, de casser plusieurs idées reçues, et en particulier une idée selon laquelle ces quartiers seraient entre guillemets favorisés financièrement, budgétairement, et même qu'ils recevraient plus de la solidarité nationale que ce à quoi ils contribuent.
Oui, effectivement, et très sincèrement, quand on s'est rendu compte de la façon dont circulait l'argent, d'une certaine manière, l'argent de la solidarité nationale, on est tombé de l'armoire. On est tombé de l'armoire parce qu'on s'est rendu compte que la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus jeune, le plus pauvre, et où il y a aussi le plus d'immigrés en France, 30%, était le 8e contributeur au financement de la protection sociale. La protection sociale, c'est quoi? C'est les retraites, la santé, le chômage, le logement, la précarité, disons, on va dire le RSA. Et puis j'en oublie un. Donc 8e contributeur et dernier receveur. Et le premier receveur, c'est quel département? C'est le Var. Le Var où se présente Éric Zemmour. Et pourquoi cette situation? Pour une raison très simple, hein, c'est que la très grande majorité de la protection sociale en France, c'est les retraites et la santé. Et ceux qui profitent, c'est pas normal, de cette protection, c'est qui?
Les retraités et les gens qui ont besoin du système de santé.
Voilà, mais c'est d'abord les retraités qui ont besoin du système de santé. Donc ça fait à peu près au total, les retraites, c'est 130 milliards. Le coût du système de santé pour les retraités ou les plus de 60 ans, c'est à peu près 120 milliards. Donc ça fait quasiment 500 milliards sur un peu moins de 750. Donc en gros, les deux tiers qui vont vers les retraités. Et dans les départements où il y a beaucoup de QPV, et notamment en Seine-Saint-Denis, il y a très peu de retraités. En général, en Seine-Saint-Denis, il y en a deux fois moins que la moyenne nationale.
Et globalement, la population est plus jeune.
La population est beaucoup plus jeune, et il y a aussi beaucoup moins de retraités. Et donc, le résultat, c'est que même s'il y a plus de chômage, et même s'il y a plus de RSA, même s'il y a plus d'APL, la Seine-Saint-Denis, qui est par ailleurs dynamique sur le plan économique, finance par son travail, parce que l'essentiel de la protection sociale, c'est un financement qui vient du travail, 87-8%, finance par son travail les territoires, les départements où il y a beaucoup de retraités et peu d'actifs. Et ces territoires, c'est par exemple le Var, c'est par exemple la Nièvre, c'est tout ce qu'on appelle la diagonale du vide. Et donc ça donne ce résultat ébouriffant, la Seine-Saint-Denis, 8e financeur de la protection sociale en France et dernier receveur.
Et à partir de là, vous développez aussi une démonstration qui est relativement implacable, c'est que en plus d'être donc un fort contributeur à la protection sociale et un faible receveur, c'est également dans ces territoires, en particulier la Seine-Saint-Denis, mais vous l'avez dit dans le rapport, il y a d'autres territoires en QPV, y compris d'ailleurs dans des départements plus ruraux. Mais dans tous ces quartiers, ce qui les caractérise, c'est un sous-équipement sportif, culturel, moins de places en crèche, trois fois plus de chômage et des indicateurs scolaires qui sont aussi dégradés par rapport à la moyenne nationale. Bref, finalement, c'est des quartiers qui, contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'on parle souvent justement de dispositifs, dont on a beaucoup parlé aussi de l'ANRU, la rénovation urbaine, donc on entend dans les débats publics souvent qu'on déverserait des milliards et que ces quartiers, finalement, seraient des gouffres financiers. Et en fait, c'est pas du tout le cas.
Oui, c'est pour résumer les choses, une formule un peu lapidaire, je dirais que la stratégie qu'on mène, c'est donner moins à ceux qui ont moins. Ceux qui ont moins, on connaît les chiffres, hein, ces quartiers, c'est un taux de pauvreté trois fois supérieur à celui de la moyenne nationale. C'est un taux de réussite scolaire, on n'a pas exactement les chiffres, mais qui est, disons, très nettement inférieur à la moyenne nationale, notamment pour les garçons. C'est aussi des quartiers où il y a, par exemple, 50% de familles monoparentales en plus. C'est des quartiers où il y a deux fois plus d'immigrés que la moyenne nationale, puisqu'on a 20% contre 10%. Et face à ça, c'est-à-dire la précarité économique et la distance culturelle, parce qu'il ne faut pas se raconter l'histoire, c'est plus compliqué quand on est immigré en France que quand on n'est pas immigré, parce qu'on ne connaît pas les codes de la société, parce qu'on a du mal à s'adapter, parce que dans certains cas, on a des groupes aussi qui disent il faut pas s'adapter. C'est compliqué pour les immigrés, c'est compliqué encore plus d'une certaine manière pour leurs enfants, qui ne sont plus vraiment de la culture des parents, et pour certains d'entre eux, pas encore complètement de la culture française nationale. Donc il y a des difficultés économiques et culturelles, et en face, il y a cette grande évasion du financement de la protection sociale, hein, de ces quartiers vers le reste du territoire, et puis il y a finalement très peu d'argent pour le soutien aux populations. Il manque 350 millions l'éducation nationale, parce qu'il y a un peu plus d'enseignants, mais ils sont très jeunes, donc ils coûtent moins cher. Il manque 500 millions ou un peu plus de forces de l'ordre. Très peu de forces de l'ordre dans les quartiers. C'est le paradoxe. On a calculé qu'en Seine-Saint-Denis, il y a 20 fois plus de crimes et délits ou crimes avec armes que dans le département de l'Indre, il y a deux fois moins de forces de l'ordre. Il y a moins de magistrats, il y a beaucoup moins de médecins aussi, et puis il y a les équipements de base. Effectivement, les crèches, 6 fois moins de crèches par enfant que dans le reste du territoire. 6 fois moins aussi de pédiatres. 50% d'équipements sportifs en moins. Donc, il y a un très gros problème de sous-équipement, à la fois dans les murs et puis dans les services pour ces populations. Et puis enfin, vous me permettrez d'être un peu long, il y a effectivement la rénovation urbaine. En fait, la rénovation urbaine, elle a focalisé tout l'intérêt pour ces quartiers. Parce que, c'est vrai, on a mis de l'argent. On a mis de l'argent, un peu d'argent d'État, beaucoup d'argent d'Action Logement, qui est un fonds mutualisé pour le logement, et puis beaucoup de dettes qui viennent de la Caisse des dépôts.
Et puis l'argent un peu des communes aussi, qui sont contributrices.
Et évidemment, des communes, voilà, il y a 4 types de financeurs. Ce qu'on oublie de dire, c'est que tout le monde fait de la rénovation urbaine, et pas seulement les quartiers politiques de la ville. Tous les bailleurs sociaux rénovent leur logement. Mais il n'y a que pour ceux qui sont situés dans les quartiers politiques de la ville que l'on fait le total. Et donc ça crée un effet de loupe. C'est pas 50 milliards, c'est 3 milliards par an. Et dans les 3 milliards par an, il y a 10% qui vient de l'État. Et l'État met effectivement un peu plus d'argent que pour le reste de la rénovation urbaine. Mais c'est, je dirais, 20-30% de plus que pour le reste des quartiers, pas plus. Donc en fait, on met un peu plus d'argent pour la rénovation des bâtiments et on met moins d'argent pour les habitants, des habitants qui, par ailleurs, ont des difficultés économiques et culturelles spécifiques. Et donc, ça marche pas.
Et assez étonnamment, on a un discours dans le débat public qui soit diabolise tous ces dispositifs et disent que bon bah puisque ça sert à rien il faudrait tout supprimer ou mettre l'argent dans les territoires ruraux néo-ruraux et de l'autre côté en réalité souvent une défense assez molle et inefficace des pouvoirs publics puisque tout ce que vous avez décrit dans le rapport finalement le gouvernement pourrait le reprendre à son compte et les élus dire voilà la réalité c'est pas ce qu'on entend ou les débats un peu caricaturaux mais la réalité c'est ça c'est des territoires qui souffrent plus et qui ne bénéficient pas forcément du surcroît de moyens qu'on imaginait.
Voilà tout le monde glose et notamment à droite ou à l'extrême droite sur les vous savez les territoires perdus de la République. Moi je les appellerais les territoires délaissés de la République. Après, il ne faut pas être démagogue. Donc, il faut dire les difficultés. C'est difficile d'y envoyer des enseignants. C'est difficile d'y envoyer des policiers. C'est difficile d'y envoyer des médecins. Pourquoi ? Parce que la vie est très difficile, et notamment la vie de ceux qui sont porteurs d'un peu d'autorité, et notamment vis-à-vis de la jeunesse. Et donc, même avec de la volonté politique, même avec des moyens financiers, on n'est pas sûr d'attirer notamment des fonctionnaires dans ces quartiers. Donc, il faut une stratégie assez globale. Il faut une stratégie financière pour les payer mieux. Et c'est ce qui est fait maintenant depuis un certain nombre d'années. On peut toujours dire plus. D'ailleurs, on dit plus. Il faut aussi une stratégie pour donner notamment aux chefs d'établissement la capacité de réunir, d'avoir une équipe de gens motivés. Il n'y a rien de pire qu'un jeune prof qui sort du CAPES, qui a 23 ans, et qui sait qu'il va devoir faire 2 ans en QPV. Il attend ses 2 ans et ensuite il part en courant. Il faut des gens motivés. On a aujourd'hui une jeunesse qui cherche du sens. Aller enseigner la philosophie, l'histoire, les mathématiques dans les quartiers pauvres de la République, c'est du sens, ça donne du sens. Mais il faut aussi qu'il y ait suffisamment d'adultes dans le lycée, des enseignants, mais aussi des surveillants, tout ce qu'il faut comme surveillants, dans le quartier. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument qu'il y ait, par exemple, plus de gardiens et qu'il y ait plus de forces de l'ordre, mais aussi des gardiens d'immeubles. Et puis la troisième chose, c'est que il n'y a pas que la récompense monétaire ou financière. Par exemple, on propose que les fonctionnaires qui vont dans ces quartiers, leurs enfants ensuite, soit favorisée dans l'accès, par exemple, à l'enseignement supérieur. Donc, vous voyez, il faut une stratégie globale. Et puis derrière, il faut une volonté politique pour arrêter la stigmatisation d'un côté. Et en même temps, il ne faut pas être dénigré. Oui, il faut pas être naïf. Il y a des grandes difficultés dans ces quartiers. Il y a du trafic de drogue, il y a un islamisme montant, il y a la très grande majorité des djihadistes qui viennent de ces quartiers. J'ai fait un gros travail sur ce sujet également avec l'Institut Montaigne. Donc il faut dire la réalité, les difficultés, les opportunités, ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Alors, ce qui marche mais qui nécessite peut-être des moyens supplémentaires, vous l'avez dit, c'est l'éducation. Là-dessus, je pense que les propositions que vous faites, elles sont notamment sur la fidélisation des enseignants dans ces quartiers. C'est un point qui pourrait faire largement consensus, me semble-t-il. Après, il y a une évolution une approche qui paraît insuffisante. C'était ce que disait notre invitée précédente, la première adjointe au maire de Saint-Denis. C'est la mixité sociale. Vous avez une proposition qui consiste à plafonner les logements sociaux à 40% par commune, et elle dit, elle, que finalement, ce qu'il faudrait, c'est plutôt réussir à construire les logements sociaux là où il n'y en a pas suffisamment et renforcer les obligations de la loi SRU. Parce que au fond, elle dit, nous, on est conscient dans nos communes où on a plus de 50% de logements sociaux qu'il faut qu'on diversifie. En revanche, les besoins en logements sociaux, eux, ils perdurent. Et si on peut plus loger les gens dans les villes où il y a déjà beaucoup de logements sociaux, où les loge-t-on s'il n'y a pas, justement, ces logements construits ailleurs?
Alors, elle a raison, je suis d'accord avec elle. C'est plutôt une divergence tactique ou stratégique. À partir du moment où vous dites 40% plafond de logements sociaux et que les nouveaux logements sociaux allaient être construits dans les communes, on dit non, ça va pas être dans les communes. Donc la question, c'est ça va être dans les communes où le plafond n'est pas atteint. Mais ça permet aussi de faire se rendre compte que il ne faut pas multiplier les logements sociaux. Parce que les logements sociaux, par définition, on loge des populations qui sont plus pauvres. Et puis dans ces quartiers-là, on sait très bien qu'ils viennent aussi dans les logements les plus précaires, des populations qui sont prêts à tout pour avoir un logement, et alors que certaines autres populations, en fait, vont refuser, par exemple, le chêne pointu. Donc oui, ça va ensemble. Il faut à la fois un plafond dans certaines communes, et il faut aussi encourager d'autres communes à accepter des logements sociaux que sinon on n'accepterait pas. Mais si on met pas le plafond, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les nouveaux projets vont toujours au même endroit, et on crée des catastrophes.
Certes, mais par exemple, si vous abordez la question de l'éducation, si on regarde pas les questions de carte scolaire, si on regarde pas les questions de peuplement, en fait, on est enfermé dans le sujet. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est l'aménagement qui permettrait de créer la mixité et qui, du coup, aurait des effets induits positifs sur le peuplement dans les écoles, donc les niveaux scolaires, sur aussi l'accès à un certain nombre de services, mettre aussi ces logements sociaux là où il y a des transports, alors qu'on sait que ces quartiers, globalement, sont les moins bien desservis. Enfin, finalement, il y a un effet en cascade qui serait positif si on arrivait à franchir le cap d'un aménagement plus équilibré. C'est ce que disait Katia Donnac.
Mais elle a raison, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais il n'y a pas de contradiction. Tout est lié, évidemment. Après, il faut bien commencer par un endroit. Et je pense que la meilleure façon de commencer, c'est refaire le diagnostic. Parce que ces quartiers souffrent d'un mauvais diagnostic. Et si on n'a pas le bon diagnostic, en fait, on dit n'importe quoi. On s'en préoccupe quand il y a des émeutes, des attentats, des violences. Et puis après, on dit, de toute façon, avec tout ce qu'on fait pour eux, on va pas en faire plus. Et d'ailleurs, ça marche pas. Donc, c'est ça la stratégie. C'est on en fait le minimum pour éviter la manifestation de la violence. Et ça ne peut pas fonctionner. Et puis, beaucoup de gens qui disent la République. Moi, je suis républicain, j'espère un bon républicain, mais pour moi, la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et l'égalité, ou en tout cas la capacité à donner notamment aux enfants les moyens d'avoir des outils de la connaissance, de l'émancipation et de l'ascension sociale, on n'y est pas. Et donc il faut que les grands républicains se saisissent du sujet, et pas seulement de la question de la laïcité. C'est là qu'il y a des problèmes. C'est lié d'ailleurs à la laïcité, parce que pour certains, l'islamisme est une offre alternative à l'offre de la République. Il faut que la République se batte et qu'elle soit fidèle à sa promesse.
Alors justement, on se rappelle d'un événement intervenu au début, dans la première partie du quinquennat, où Jean-Louis Borloo, qui est un des promoteurs de l'ANRU, l'Agence nationale pour l'innovation urbaine, sous l'égide de Jacques Chirac, et une de ses voix qui essaye justement de bousculer un petit peu les idées reçues. Et on se rappelle que le rapport Borloo, bien finalement, a débouché sur très peu de propositions. Comment vous expliquez ce manque d'intérêt des responsables politiques nationaux et ce manque de portage politique d'un sujet qui est pourtant, vous venez de le rappeler, au cœur de la cohésion nationale et du pacte républicain?
Pour une raison très simple, et je rends hommage ici à Jean-Louis Borloo, qui a fait vraiment un travail formidable avec l'ANRU et qui est un de ceux qui porte ce sujet. La politique, c'est un rapport de force. Et quand on parle d'argent, c'est un conflit de répartition. J'évoquais le nombre de forces de l'ordre en Indre versus la Seine-Saint-Denis. Les élus, et c'est pour ça que c'est important qu'Olivier Klein, président de l'ANRU, maire de Clichy, ait travaillé sur ce rapport, les élus de terrain, des quartiers pauvres, et moi je dis pauvres et pas populaires, leur temps est absorbé par mille tâches quotidiennes pour venir en aide à la population, leur rendre des services essentiels, gérer la question de la cantine, avec des familles qui ne peuvent pas payer la cantine, des enfants, la surpopulation, ils ne savent pas combien il y a de personnes dans leur commune, etc. Ils ont, par construction, peu de temps pour faire du lobbying. Ils ont peu de temps pour se faire entendre des pouvoirs publics à haut niveau. Et donc, d'une certaine manière, ils vont perdre des arbitrages par rapport à des élus de communes plus prospères, de communes où il y a moins de difficultés sociales, de sécurité, etc. Et donc, il faut porter ce débat à l'échelle nationale. Il faut faire du bruit. Et là encore, le diagnostic est important parce que avec quelques chiffres, on peut faire bouger le débat. Et une fois qu'on a fait bouger le débat, on peut aider la prise de conscience. Les solutions, elles existent. Il y en a plein. Il y a énormément de talents. Et il ne faut pas opposer les uns des territoires les uns aux autres. Mais après, il ne faut pas faire porter aux quartiers populaires ou aux quartiers pauvres un chapeau qui n'est pas le leur.
Ou qui est beaucoup trop grand.
Maltraités, moins bien desservis, moins de fonctionnaires. Et par rapport aux quartiers ou aux territoires des Gilets jaunes, les territoires des Gilets jaunes, plus périphériques, sont beaucoup mieux servis.
Et pourtant, il n'y a pas eu d'ailleurs, ce sera un peu ma dernière question, mais vous y avez en partie répondu, mais comment vous expliquez finalement l'anémie démocratique, civique, de ces quartiers qui concentrent les plus grandes difficultés, mais il y a aussi des ressources, hein, c'est des populations jeunes qui sont souvent à l'initiative créateurs d'entreprises qui innovent, mais comment vous expliquez qu'on n'arrive pas effectivement à les faire entendre, y compris peut-être par des mouvements de protestation comme ceux qu'on a connus il y a quelques années dans les territoires périphériques?
Alors moi je crois que la façon de faire, c'est se faire entendre par le système de représentation institutionnelle. Il a l'air vieillot, c'est vrai, il marche pas très bien, de moins en moins bien. Mais il faut voter. Il y a des élections législatives dimanche et dimanche d'après. Votez. Et voter, c'est bien mieux que la violence, c'est bien mieux que les manifestations qui ne mènent à rien. Il faut voter, il faut s'engager. Il y a une nouvelle génération d'élus locaux dans ces quartiers de très grande qualité. Il faut qu'ils se fassent de la place, y compris d'ailleurs dans le parti de Jean-Luc Mélenchon, où j'ai noté qu'il y avait beaucoup d'élus locaux de ces quartiers qui trouvaient qu'ils n'avaient quand même pas eu beaucoup de place. Donc le combat, il est partout. Il n'est pas qu'au sein du gouvernement, il est aussi dans l'opposition.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, puisque de toute façon, on est à quelques jours des premiers tours des élections législatives et qu'effectivement on invite toutes celles et tous ceux qui ont envie de s'exprimer à le faire et à utiliser le bulletin de vote. Merci Hakim El Khaoui. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, essayiste, co-auteur avec Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, président de l'ANRU, de ce rapport sur les quartiers pauvres qui ont de l'avenir. Et c'est bien de le présenter comme ça parce que on a aussi parfois un discours un peu pessimiste. Et vous, eh bien, vous essayez à travers ce rapport de l'Institut Montaigne de secouer un petit peu les idées reçues et surtout de changer de méthode avec des propositions. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.